Mr. Williams, let me introduce... نديرو حاجات كبار أنا وياك. لازم تلقى مع العجوز يما. Do you know دوبارا؟ واحد الدوبارا طيب يما؟ مودر مودر. My mother, العجوز.
À l'occasion du Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt, La Grenouille vous propose des chroniques quotidiennes du 6 au 11 novembre à 15h30. Rencontre avec un grand monsieur du cinéma africain, Gaston Caboret. Il est burkinabé, il vit au Burkina Faso et a réalisé 4 longs métrages, dont Wen Kuni en 1982. Au Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt, où 2 de ses films sont programmés, Boudiam et Rabi, Gaston Caboret se fait un plaisir d'échanger avec le public. Rabi était notamment projeté à des enfants d'école primaire et de collège.
Il fait très chaud dans cette salle. Soyez à l'aise pour regarder le film.
Toi, t'es en quelle classe?
CM2.
T'en as déjà vu les films africains?
Oui.
C'était comment?
Bien. J'aime bien ça.
Pourquoi?
Parce qu'il y avait toujours des morales.
Ah ouais?
Oui.
Quoi, par exemple?
L'enfant et le caïman, ça apprenait à l'enfant qu'il fallait laisser les animaux dangereux, pas les aider parce que sinon ils pouvaient se faire manger. Ou...
Sinon l'enfant il pouvait se faire manger?
Oui.
Chut. Tu l'as déjà vu ce film?
Non.
Tu sais comment il s'appelle?
Rabi.
Et le réalisateur?
Gaston Caboret.
Voilà, bonjour. Merci d'être là, parce que nos films ont besoin de vous. Sans le public, les films ne vivent pas, parce que c'est des corps vivants, c'est des êtres qui vont tous les jours, c'est ce qu'on souhaiterait en tout cas, à la rencontre de nouveaux spectateurs qui ont leurs yeux, leurs regards, leur sensibilité. Et ce qu'on espère, c'est qu'à chaque fois, les personnages que nous mettons dans nos films soient en quelque sorte des miroirs un petit peu de vos vies à vous. Et j'ai fait ce film en 1992, donc pour vous, il y a très longtemps déjà, parce qu'il y a 16 ans que ce film existe. C'est l'histoire d'une amitié entre un petit garçon qui voulait en quelque sorte dompter une tortue, il voulait... Voilà, que ça devienne en quelque sorte sa chose, ou son ami éventuellement, mais d'abord l'apprivoiser. Mais ce qu'il a fini par comprendre, c'est que s'il aimait cet animal étrange, ben cet amour devait l'amener à la libérer. Et c'est aussi l'amitié entre ce petit garçon et son grand-père. Donc c'est ça l'histoire du film. Donc je vous souhaite une très bonne vision et à tout à l'heure. Dormez pas, hein. À bientôt.
Chut.
Je suis un peu plus de temps.
À la fin de la projection de Rabi, le réalisateur burkinabé Gaston Kaboré vient répondre aux questions des enfants.
C'est votre enfance ?
Oui, un petit peu, mais c'est pas moi, Rabi, c'est pas moi, vraiment.
Et aussi, j'avais une autre question. Mais vous avez écrit à la langue africaine ou après il y en a un qui a traduit ?
C'est le moré qu'il parle. La langue moré qui est parlée par les Mossi. Et moi, je suis un Mossi.
Pourquoi ils avaient tous un rond à la place du nombril ?
Pourquoi ils avaient toujours ?
Un rond à la place du nombril.
Pas tous. C'est Rabi. Rabi a un gros nombril. Vous savez, ça arrive de temps en temps. Si c'est ici, avec de la chirurgie, c'est très facile de remédier à ça. En fait, c'est de l'air qu'il y a dedans. Au moment où on coupait le cordon ombilical, on ne l'a pas bien arrêté. Et donc, son nombril, son nombril est très important pour moi parce que je trouve que ça ne pouvait pas être un facteur d'élimination au moment où je le choisissais. Bien au contraire, ça lui donne sa propre identité, sa personnalité.
Pourquoi le grand-père mange tout le temps du tabac et pas d'autres repas ?
Il fait quoi ?
Pourquoi le grand-père mange que du tabac ?
Oui.
Et pas d'autres repas, genre la nourriture
pas
et tout ?
Pas d'autres repas ? Non, on ne l'a pas vu manger parce que dans le film, ce n'était pas essentiel. Mais vous vous doutez bien qu'il mange, puisqu'on a vu la femme qui lui a amené son repas et qui lui disait qu'il faut qu'il mange absolument.
Enchanté par le film de Gaston Kaboré, les enfants s'identifient au héros, Rabi, un jeune garçon qui vit dans un village du Burkina Faso.
Mais l'histoire, c'était un enfant qui s'appelle Rabi. Et bien, comment dire, il a son père a trouvé une tortue dans la brousse. Et depuis, il ne quitte pas, il a construit une petite maison pour lui.
Et ça vous a plu ?
Oui, beaucoup. Parce que le plus dur dans ce film, c'est surtout de lire et de bien comprendre. Parce que des fois, à un moment, on en a marre de lire. Et d'un coup, on reprend. Comme c'était le moment le plus passionnant, quand on tombe.
Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est quand le grand-père de Rabi lui disait « Sois attentif aux vibrations de la nature, ne borne pas ton savoir au visible. » Et puis ces phrases, comme on y avait travaillé dessus avec l'école, ça m'a un peu émue, puisque ça, nous aussi, on avait essayé de travailler dessus et on avait fait des textes avec. Donc, voilà.
Est-ce que dans ce film, il y a des choses qui ressemblent à votre vie, à vous ?
Oui, il y en a une. Comme par exemple, quand ton papa il va te demander une corvée, comme son père, Arabi, il va lui dire « T'es là ? Ben, je t'attendais, viens m'aider à forger. »
Alors toi, on te demande de forger des fois ?
Non, on me demande plutôt de faire des corvées. Comme aller chercher de la viande au boucher.
Eh bien moi, c'est parce que moi aussi j'ai eu une tortue et moi aussi en vrai j'ai essayé de la dompter et ça n'avait pas marché. Et comme j'étais toute petite, à un moment j'ai voulu casser une noix et puis j'avais, sans faire exprès, j'avais pas vu que c'était la tortue. Et puis j'avais pris la tortue. Puis j'avais pris là en fait la tortue pour un caillou. Et puis alors j'avais cassé la noix avec la tortue et c'était en plein dans son ventre. Et du coup ma tortue elle est morte. Et c'est un peu comme Rabi, c'est comme s'il avait voulu mettre la tortue en laisse en fait. Et puis il aurait pu l'étrangler aussi. Et jusqu'à ce que sa sœur ait intervenu au moment où il allait vraiment l'étouffer. Voilà.
Alors c'est drôle parce que donc Rabi il vit dans un petit village au fond du Burkina Faso et toi tu t'habites où ?
Moi j'habite pas vraiment là-bas. C'était plutôt quand j'étais toute petite, avant j'habitais à Marseille et c'est là-bas que j'avais une tortue.
Gaston Caboret, vous êtes burkinabé, vous vivez au Burkina Faso. Au Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt, il y a tout un travail avec des scolaires. Comment vous voyez ça, l'écho que vos films, donc ancrés dans des villages au Burkina Faso, comment ces films font écho dans la tête des enfants?
Mais je pense que l'homme est partout le même. Voilà, ce qui nous sépare, ce ne sont que des certains artifices ou des superficialités. La couleur de la peau et la culture est beaucoup conditionnée par l'environnement dans lequel on vit, qui vous façonne en partie, etc. Mais je pense que partout l'homme, il a ses peurs, ses craintes, ses interrogations. Il y a la passion, l'amour, la haine, etc., qui sont des sentiments universels. Et pour peu qu'un film, bien qu'enraciné profondément dans un terroir, raconte l'histoire, une histoire sensible, je ne suis point étonné qu'au Japon, ou en Mongolie, ou au fin fond de n'importe quel continent, tout d'un coup, d'autres personnes puissent se sentir touchées par cela. C'est ça la force du cinéma, de voyager en racontant l'histoire de femmes et d'hommes qui vivent à mille lieues des réalités d'autres, mais pourtant de pouvoir se comprendre et de pouvoir communiquer. Et bien sûr, que nos films soient vus par de jeunes spectateurs comme les enfants, c'est très important parce que ça leur élargit leur horizon et ça leur permet de comprendre que ben, eux vivent ici d'une certaine manière et il y a d'autres personnes ailleurs, mais qu'au fond, les différences de mode de vie ne sont pas ce qui est nécessairement le plus essentiel et que quelque part, la similitude de nos humanités, c'est ça qui est le plus important.
Vous avez déjà réalisé 20 films, dont 2 sont projetés à Apt cette année, au Festival des cinémas d'Afrique, Rabi et Boudiam. Alors j'ai lu que vous étiez arrivé au cinéma après des études d'histoire. Quel rôle joue l'histoire dans votre cinéma?
Moi, je suis allé, c'est l'histoire qui m'a amené au cinéma, dans le sens où je m'étais aperçu que pour corriger peut-être un certain nombre des préjugés, des clichés répandu en Occident sur l'Afrique, le cinéma pouvait être un moyen assez efficace de faire des films sur les sites archéologiques, par exemple, pour montrer qu'il y a eu des civilisations en Afrique, etc., etc. Et donc, je vais à l'école de cinéma pour apprendre le langage des images, parce que mon mémoire de maîtrise en histoire avait eu pour thème la représentation de l'Afrique noire dans la presse illustrée en France, et notamment le Petit Journal illustré, à la fin du 19e siècle. Parce que je faisais mon mémoire de maîtrise à la Sorbonne à Paris. Voilà. Et donc, pour commencer mon année de thèse, j'ai estimé qu'au fond, la problématique que je posais de cette représentation au regard et à la conscience des Européens, on pouvait se la poser par rapport aux films que je pouvais voir à la télévision dans les années 75 et aussi au cinéma, chaque fois qu'un film concerne l'Afrique en quelque sorte. Mais pour étudier les mêmes clichés et préjugés tels qu'ils continuent de se dérouler dans le cinéma contemporain et à la télévision, il me fallait moi-même apprendre vraiment ce qu'était la technique du cinéma et connaître réellement le montage et tout cela, parce que c'est des choses extrêmement complexes. Voilà. Et donc je vais à l'école de cinéma dans le but en fait d'apprendre un langage qui va continuer de me servir dans ma démarche historique. Et c'est réellement quand je suis rentré à l'école de cinéma que j'ai mieux compris les atomes cochus que j'avais vraiment avec le récit cinématographique. Et c'est devenu plus clair dans ma tête que j'avais envie, sans renoncer à l'histoire avec un grand H, de raconter désormais des histoires, parce que c'était peut-être le chemin le plus court pour aider les Africains à reconquérir leurs espaces imaginaires, leurs langues, leurs histoires, les contes, etc., etc. Donc je suis sorti avec un diplôme de mise en scène et je suis rentré au Burkina en juillet 76, voilà, pour commencer dès le mois de septembre à travailler.
Quel effet ça vous fait quand Nicolas Sarkozy, à peine élu à Dakar en juillet 2007, affirme que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire ?
On peut penser que c'est une maladresse d'expression, mais moi je crois que ce n'est pas ça. Ça cache plusieurs choses, à la fois une terrible ignorance, presque cruelle pour celui qui en est victime de cette ignorance, et deuxièmement, de l'arrogance aussi, parce que pour croire qu'on peut se permettre de formuler cela, ça procède aussi d'une autre sorte d'irresponsabilité. Mais c'est dans une logique de tradition, justement, des rapports entre les Occidentaux et l'Afrique, parce que Sarkozy n'est pas un historien. Mais il y a même encore, on trouve des historiens qui ont du mal à admettre que, par exemple, l'Égypte, la civilisation égyptienne des premiers millénaires avant Jésus-Christ, c'est bien le fait d'une civilisation noire, nègre. Voilà, c'est l'Afrique est victime de beaucoup de mensonges, de falsifications et de choses caché. Donc ça faisait partie aussi de ce que je voulais démontrer, c'est-à-dire permettre aux Africains de se reposséder et de connaître leur histoire, parce que c'est aussi un levier important des consciences. Et pouvoir expliquer aux jeunes, même dans des films d'époque qui ne sont pas forcément au premier chef des films engagés et politiques d'aujourd'hui, leur faire comprendre que ça n'est pas un malheur d'être né en Afrique, que c'est même une chance, parce qu'il y a un trésor de passé, parce que c'est quand même l'Afrique, le continent africain, sur lequel s'est manifestée la première présence humaine. Voilà, moi, ce sont des questions qui m'intéressent, que j'ai envie de raconter. Si je pouvais écrire le premier songe jamais fait dans l'univers, j'aimerais le raconter. Il faut savoir que malgré tout, jusqu'aujourd'hui donc, il y en a qui situent l'Égypte au Moyen-Orient. Pourquoi ? C'est un pays qui est en Afrique, c'est le continent africain. Mais c'est comme ça, on veut. Et puis on a voulu dire qu'en réalité, les Égyptiens n'étaient pas des Noirs, c'était des Européens à la peau sombre, enfin une autre race, des Blancs à la peau sombre. Or, il est avéré aujourd'hui que les dernières pyramides construites datent de 2600 avant Jésus-Christ. Donc, c'était avant l'arrivée de toutes les autres invasions que l'Afrique a connues. Donc, c'est une civilisation qui s'est développée, qui s'est inventée sur le sol africain. Au contraire, c'est après que les Grecs et d'autres sont venus se former avec les Égyptiens. Bref, c'est pour dire que cette méconnaissance, tous les mensonges qui se sont sédimentés depuis pour justifier l'esclavage, etc., peut conduire un homme, et c'est malheureux, du niveau de responsabilité d'un président français pour aller déclarer des inepties de cette sorte. Ça prouve aussi tout le chemin que nous avons à faire pour renverser ces clichés et ces préjugés sur l'Afrique et sur les Africains.
à la fin du 19e siècle, il y avait des clichés. Et finalement, aujourd'hui, c'est toujours les mêmes qui perdurent, malgré le travail d'historien, malgré le travail de cinéaste.
Oui, bien sûr, parce que c'est réellement, c'est inscrit dans les consciences quelque part. On est et on a cet héritage-là dans le regard. C'est pas facile à changer, mais moi, je ne désespère pas. De toute façon, pour moi, nous ne devons pas nous battre pour changer ce qu'il y a dans la tête des autres. Nous devons nous battre pour nous-mêmes connaître notre histoire. Parce que aussi les Africains n'ont pas accès nécessairement à une connaissance approfondie de leur histoire. Ce qui est le plus important à mes yeux, c'est que les Africains apprennent à reconquérir leur confiance en eux-mêmes. Il faut que nous soyons nous-mêmes capables de réfléchir notre développement et de faire les choix qui sont valables pour nous et non pas suivre l'Occident dans ses errements. Aujourd'hui, on le sait, la crise est là pour le prouver. Or, toutes les économies africaines d'aujourd'hui ont été en quelque sorte embrigadées dans une certaine idéologie économiste et financière par la Banque mondiale et par le FMI. Et heureusement que quelque part, l'Afrique peut-être est réfractaire à certaines choses et suit à distance. Alors on dit toujours, il y a beaucoup de pays africains qui sont mauvais élèves. Je dirais, vive les mauvais élèves, parce que si nous avions tout suivi à la lettre, le contre-coup de la crise aujourd'hui serait dramatique en Afrique. Bien souvent, on a voulu réduire l'Afrique à un segment d'histoire qui est ridiculement petit par rapport à toute la trajectoire historique de l'Afrique. Je veux parler de la période coloniale qui, pour être traumatique, n'est tout de même pas, disons, comparable à toute la longue histoire et évolution du continent. On nous enferme à l'intérieur de 100 années et on veut tout expliquer à partir de là. Non, c'est important sans doute la colonisation, parce que comme cela a été pour d'autres peuples qui ont été dominés par des envahisseurs étrangers, ça a été le cas en France avec les Romains. Quand ils sont arrivés, ils ont établi leur mainmise quand même très longtemps. Après, il a bien fallu que la Gaule puis la France se sortent de ça, en quelque sorte, tout en incorporant l'héritage de l'époque romaine. C'est ce qu'on doit parvenir à faire en Afrique. Malheureusement pour nous, les moyens de communication aujourd'hui, quand je dis communication, c'est non seulement la communication physique, les routes, les avions, mais aussi la communication, le satellite, la radio, la télévision, fait que cette entreprise de repossession de nous-mêmes est difficile parce que nous vivons exposés au monde entier et ceux qui sont capables d'occuper l'espace informatif sont ceux qui ne connaissent pas l'Afrique. Donc, il y a une amplification de cela. Voilà. Aujourd'hui, même les conflits en Afrique, je suis sûr que les médias internationaux jouent un rôle incroyablement négatif au niveau de la résolution de ces conflits, parce que tout de suite, on passe le micro à un camp qui dit ce qu'il pense, réaction des autres, et ça fait que peut-être l'une des choses que nous avions en Afrique était la capacité d'écoute, de dialogue, de négociation, qui parfois a été un peu folklorisée. On dit les Africains aiment palabrer. Non, c'est la palabre est une manière de rentrer en communication entre les individus d'une même société et de réduire les conflits. Et aujourd'hui, nous sommes dépassés, je pense, par une certaine cacophonie informative qui fait que réellement les antagonistes et protagonistes n'ont pas la possibilité de s'écouter. Sinon, on pourrait résoudre beaucoup de conflits et éviter tant de morts. Mais c'est comme ça, il faut qu'on fasse avec, parce que l'Afrique ne peut pas s'isoler, se couper du reste du monde, mais il faut qu'elle arrive à être de moins en moins victime de cela. Et pour cela, il faut simplement que la personnalité plurielle des Africains prenne le dessus. Nous avons nous-mêmes nos propres richesses et notre façon de fonctionner socialement, de communiquer. Il faudrait que tout cela soit revisité, connu et puisse être utilisé le cas échéant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Est-ce que vous parvenez à projeter vos films dans des salles en Afrique et comment ils sont reçus ?
La distribution de nos films en Afrique est malheureusement très déficiente. Il est clair que nos films ne sont pas autant vus qu'on pourrait le souhaiter, ni même tels que les spectateurs aimeraient. Mais chaque fois qu'on a l'occasion, par contre, de présenter nos films dans nos propres pays d'abord, mais aussi dans des pays environnants, où les gens peuvent s'identifier plus aisément aux histoires que nous racontons, bien sûr, il y a un succès énorme. Aujourd'hui, le problème de la distribution des films se pose autrement, parce qu'il y a maintenant le numérique qui est arrivé, et est-ce que cela va permettre à l'Afrique, qui n'a jamais pu résoudre le problème de la circulation des films de façon physique avec les bobines 35 mm et tout, est-ce que nous allons pouvoir profiter d'une certaine légèreté et plus grande facilité de transport de l'image, et bientôt ça serait même pas un transport physique mais un transport par onde. Donc il faut espérer que nous allons profiter des nouvelles avancées de la technique. Donc, je me dis que la bataille pour avoir un réseau de salles très important en Afrique et une circulation des copies de films, cette bataille-là est quasiment perdue. Maintenant, ce qui importe, c'est que les films soient vus. Et donc, on a des solutions de rechange pour essayer d'aller vers cela.
Merci beaucoup, Gaston Caboret.
Merci.
C'était Gaston Caboret, cinéaste burkinabé, dont deux films étaient programmés au Festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt, Rabi et Boudiam. Rabi, la boule à quoi, Manda? Pourquoi tu m'as un gros dollar?